Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, journaliste Eurosport. Bienvenue dans le FC Stream Team. Il est là, planté devant moi, et chaque semaine, à chaque fois, c'est le même enchantement, le même bonheur de le savoir à mes côtés. Les rares fois où il manque à l'appel, c'est un vendredi long comme un week-end sans Ligue 1. Allure décontractée, mais tout de même soignée. Rasé de près, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Le ton juste, l'argument qui claque, la parole qui porte, il gère. Grand, svelte, Poraltier, il porte beau, comme on dit. Il aime l'heure des pros, les pulls sur les épaules et les mocassins à glands portés sans chaussettes. Sinon, ces petites soquettes invisibles qui laissent apercevoir un début de pilosité, là aussi raisonné. Non, Martin, évidemment, tu sais bien, je parle pas de toi, mais je parle d'Adrien. Notre chef d'édition, notre cadre, notre phare, notre réalisateur. D'aucuns le comparent à Kubrick, mais il est aux émissions d'Eurosport ce que Sergio Leone fut au Western Spaghetti. C'est notre Coppola d'ici les Moulineaux, notre Max Pécasse de la réalisation. Et là, il est bien ennuyé parce que lui, il n'a pas de micro, il ne peut pas répondre. Donc l'heure des pros, les soquettes invisibles, le poil sur les guibolles, il ne peut rien dire. Martin, comment ça va?
Alors au début, j'ai cru que ça m'était adressé et à Svelte, j'ai compris que ce n'était pas moi. À Svelte et à Mocassin Inglant, je me suis dit, non là, ça ne me ressemble pas du tout. Et j'ai très vite compris à qui tu voulais en venir, effectivement, à Adrien. Non, c'est vrai que c'est le grand absent de nos émissions alors qu'il est toujours présent et toujours là, quoi.
Et alors qu'il est là, moi je le vois, il est en face de moi, bim, il me donne des consignes, bim bam boum, avec ses petits mocassins à glands. Là, il y a les chaussettes, c'est bon, ça marche. Et il ne m'a pas encore parlé de l'heure des pros aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder, j'imagine.
Ou de son week-end à la boule.
Ou de son week-end à la boule avec le petit pull croisé sur les épaules.
Exactement.
Bon, on a quand même une émission à faire. Hein. Oui. On va être sérieux, sinon il va nous engueuler parce qu'il nous a déjà dit, les gars, j'ai un call. Ouais, il faut y aller, donc on va y aller. Eh bien, Martin, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de beaucoup de choses parce que c'est un week-end évidemment très riche qui nous attend, notamment en Ligue 1. Bon, on va vous faire tout simplement nos pronos sur cette 38e journée qui est complètement dingue sur le papier. Et on va aussi se poser la question, et si Lille était champion de France, où c'est qu'on le rangerait dans les surprises, on va dire, des 25 dernières années? Parce que Lille champion de France, ça serait mérité, mais ça serait aussi une surprise.
On parlera aussi, Maxime, de la Ligue, la LFP, qui veut lancer sa propre chaîne. Ce serait un petit désaveu quand même, parce que ça voudrait dire que personne ne veut acheter les droits de la Ligue 1, donc on crée notre chaîne nous-mêmes. Est-ce que c'est un coup de génie, un coup de bluff? On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, Maxime.
Et puis la troisième partie, on va se projeter sur le marché des transferts. Déjà, vous le savez peut-être, Messi ne jouera pas le dernier match de la Liga avec le FC Barcelone. A-t-il finalement terminé sa carrière avec le Barça? Sera-t-il encore barcelonais l'année prochaine ou sera-t-il parisien? On va peser le pour, le contre, on va essayer de déterminer une tendance au sujet qui sera possiblement le sujet de l'été, parce que je serais très étonné qu'au 30 juin, il ait signé son nouveau contrat.
Exactement. On démarre avec la Ligue 1, Maxime?
On y va.
Il y a 80% des matchs de Ligue 1, 8 matchs sur 10 dimanche qui auront un enjeu. La place de barragiste, la place pour les deux Coupes d'Europe, à savoir la C3 et la C4. La place pour la Ligue des Champions sur le podium, est-ce que ce sera Lyon, est-ce que ce sera Monaco? Et évidemment, la place de champion, Lille ou Paris. Donc énormément, beaucoup d'enjeux pour ce dimanche. Sans doute le dimanche où il y a le plus d'enjeux de l'histoire de la Ligue 1. C'est sans doute quand tout se joue comme ça la dernière journée, c'est très très rare. Alors on connaît simplement le 20e et le 19e. Pour le reste, tout est ouvert. Et avec Maxime, on a choisi de vous donner tout simplement nos pronostics. À savoir qui pour nous va terminer barragiste, qui va prendre la place pour la nouvelle Coupe d'Europe de l'UEFA, qui va prendre la place pour la Ligue Europa, le podium et le titre. Maxime, on démarre?
On va démarrer en bas.
T'es chaud avec la place de barragiste? Alors ouais. Pour toi, Maxime Dupuis, journaliste à Eurosport depuis des décennies, homme d'analyse, homme de finesse, celui qui voit tout avant tout le monde, je peux te dire que les Lorientais, les Brestois, les Strasbourgeois, les Nantais, tout le monde est pendu à tes lèvres. Qui terminera barragiste ?
Homme de prono pourri aussi, il faut le dire.
C'est vrai. Bah,
je pense que Brest sera barragiste à la fin de cette 38e journée parce que déjà, le vent ne va pas dans leur sens. Jouer le PSG qui va chercher un titre de champion de France, je pense que c'est assez rédhibitoire. Je vois vraiment mal le PSG faire match nul à Brest, un PSG à plein et qui va jouer évidemment tout son va-tout sur ce match-là. Et puis si vous regardez les autres matchs à côté, c'est pas très bon pour eux parce que déjà il y a la dynamique de Brest qui n'est pas bonne, celle de Nantes qui est très bonne, qui joue contre Montpellier, je les vois bien gagner. Et puis il faut le dire, il y a quelque chose qui peut être un avantage, on en reparlera pour les autres clubs, c'est le fameux match entre Strasbourg et Lorient. Qui peut, dans l'absolu, les deux équipes peuvent se dire, alors, c'est pas un biscotto, ils vont pas s'arranger, mais à un moment, le match nul peut être très bon pour eux s'ils voient que Brest, par exemple, est très vite mené au score et que Nantes gagne aussi. Un match nul, ça les sauverait aussi, donc je pense qu'ils sont vraiment dans la très mauvaise position, et Brest, c'est l'histoire quand même d'une dégringolade tout au long de l'année. J'ai vraiment du mal à les voir ailleurs que barragistes. Reims-Bordeaux, c'est pareil, ils s'affrontent. C'est à peu près sauvé, un match nul, ça les sauve aussi. Il y a le goal average. Donc j'ai vraiment peur que... Et la trajectoire de Brest, comparée à celle des autres clubs, et notamment Nantes, je ne vois vraiment pas Nantes se rater sur le dernier match. Et le spectre du Paris Saint-Germain soit vraiment rédhibitoire pour les Brestois et les envoie vers ce barrage, vers ce dangereux barrage, contre un club de Ligue 2.
Et c'est fou parce que quand Brest remporte son match à Saint-Etienne il y a quelques semaines, on dit que c'est la victoire du maintien. Ils ont 41 points, il ne peut rien leur arriver. Et ça allait tellement vite derrière, comme tout le monde gagne derrière, ouais. Et ben Brest se retrouve effectivement aujourd'hui devant peut-être la pire des positions. Moi, j'ai une petite hésitation, évidemment, je mets Brest. Lorient, il va falloir quand même aller chercher son maintien du côté de la méno. Pas simple pour Lorient. Pour moi, Nantes est dans une dynamique folle et ça ne devrait pas bouger parce qu'un nul peut suffire à Nantes si Brest s'incline face au PSG. Ça, c'est important. Le goal average est en faveur du FC Nantes, donc ça, c'est hyper important pour les Nantais. Reste que Nantes affronte Michel Derzakarian, son ancien coach, qui a plutôt la dent dure envers Valdemar Quitta. Et je ne suis pas certain qu'envoyer Valdemar Quitta en Ligue 2, ça ne fasse pas plaisir à notre ami Michel Derzakarian. Enfin, en tout cas, il y a Montpellier quand même hein, qui se déplace à Nantes pour la DER de Derzakarian, on l'a dit. Moi aussi, je mets une petite piècette pour Brest parce qu'il va falloir affronter le gros Paris, c'est-à-dire le Paris avec Neymar, avec Mbappé et avec tous les autres. Et que Brest est une équipe qui ne s'est pas fermée et une équipe qui ne s'est pas résistée au Paris Saint-Germain. Ils ont déjà pris 2 fois 3-0 cette saison en Coupe et en Ligue 1. Et une défaite de Brest les condamnerait quasiment parce que, comme tu l'as dit, un nul Lorient-Strasbourg, ça les sauve. Et un nul de Nantes, ça sauve aussi Nantes. Donc, ouais, Brest. Brest, moi aussi, ouais. Je les mets dans la charrette.
C'est vrai que c'est le pire cadeau de jouer le PSG, surtout ce PSG-là qui joue le titre de champion. Parce qu'on peut tourner le problème dans tous les sens. C'est un Paris-PSG qui a 8 défaites. Et quand même, ce dernier match à Brest, ils savent qu'il faut le gagner et je vois vraiment mal Paris se rater sur ce match-là. Donc Brest, c'est quand même pas bien barré.
La C4, Maxime ?
La C4, qui n'est pas une voiture, il faut le rappeler. La C4, c'est l'Europa League Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe. Il y avait la C1, la C2, la C3. Maintenant, on a donc la C4. C'est vraiment la Coupe d'Europe des petits. Il y a une place, c'est la 6e. Et je pense bien qu'elle sera pour Rennes, tout simplement. Je mets une petite pièce sur Rennes parce que Lens joue Monaco. Lens, ce n'est pas forcément la dynamique du siècle. Et en plus, Monaco a quelque chose à aller chercher. Monaco peut aller chercher la 2e place, la 3e place ou la 1ère place. Il faut le rappeler, Monaco peut être encore champion de France. Donc je vois mal, encore une fois, Monaco. Alors Monaco, pareil, mercredi en Coupe de France, ce n'est pas génial. C'est même moins que ça. Mais quand même, c'est pareil, je vois mal les Monégasques gâcher leur occasion là-dessus. Et puis derrière, Rennes, ça peut gagner. Il y a un point d'écart, donc je ne serais pas étonné de voir les Rennais être le premier club à jouer la C4 l'année prochaine pour les clubs français.
Je suis d'accord avec toi, d'autant que Rennes, tu ne l'as pas dit, je crois, mais affronte Nîmes.
Oui, tout à fait.
Dont le destin est totalement scellé. Puis Nîmes qui, même quand le destin n'était pas scellé, c'était très compliqué. Donc là, ça me paraît clair aussi. Alors la Ligue Europa... Moi, je vois Marseille déjà parce qu'il y a 3 points d'avance, me semble-t-il, pour l'OM. Et puis parce que Metz, qui affronte Marseille, a complètement lâché l'affaire depuis quelques temps. Il faut se souvenir, notamment, ils en prennent 3 à domicile face à Nîmes. Ils perdent à Lorient la semaine dernière, les Messins. Donc, ils ont lâché l'affaire. Ils ne peuvent plus se qualifier en Europe. Le maintien ne les concerne pas. Donc, pour moi, rideau, il n'y a pas d'histoire. À partir du moment où Marseille ne serait-ce qu'un match nul face à Metz, Il serait qualifié, donc pour moi, c'est l'OM. Il n'y a pas trop de suspense pour la Ligue Europa. Et la victoire face à Angers la semaine dernière, à la dernière seconde, pour moi, a validé la place de l'OM en Ligue Europa la semaine prochaine.
Il y a une différence de but, plus 6 en faveur de l'OM face à Lens. Donc, il y a quand même une petite marge. Donc, a priori, oui, la première place, on va dire, en Ligue Europa, ou la dernière, c'est selon, ce sera pour Marseille. Reste à savoir pour qui sera la deuxième, Martin, ce qui veut dire que c'est une équipe qui s'appelle ou Monaco ou Lyon, et qu'une des deux équipes sera évidemment très très déçue, au contraire des Marseillais qui sont peut-être pas mécontents d'accrocher une Coupe d'Europe l'année prochaine.
Ouais, là on vient aux enjeux les plus excitants, donc l'enjeu du podium, donc de la troisième et la quatrième place, ça se joue, on le sait, entre Monaco et Lyon. Monaco a de l'avance, mais moi je vois Lyon les doubler sur la ligne d'arrivée. Déjà parce que c'est l'ADN de l'OL qui sait toujours très bien faire quand ça se crispe à la fin. Et puis parce que la victoire à Louis II de Lyon, il s'est passé un truc ce soir-là, des deux côtés. Et on sent que Monaco maintenant est sur la jante. À Reims, ça passe tout juste. Rennes, la semaine dernière, ça passe tout juste. Et je ne vois pas Monaco s'imposer à Lens, tout simplement. On sent une équipe à bout de souffle. On sent une équipe. Regardez la finale de la Coupe de France. Je me demande si Monaco a déjà eu aussi peu d'occasions dans un match que mercredi dernier, où Ben Yedder, Voland, personne n'était dans un bon jour. Et ça fait quelques semaines quand même que l'ASM, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. De l'autre côté, il y a Lyon qui est en pleine bourre, Lyon qui reçoit Nice. Alors Nice, eux aussi, ils ont complètement lâché. Hein. C'est comme ce qu'on disait sur Metz. Nice est à l'arrêt total. Ça sent le feu d'artifice total au Groupama Stadium. Donc, je ne me fais aucune inquiétude pour la victoire de Lyon. En revanche, je ne vois pas Monaco s'imposer à Lens. Donc, pour moi, l'OL double l'ASM sur la ligne à la dernière minute.
Alors, je ne suis pas inquiet pour Lyon non plus. Comme tu dis, c'est des spécialistes du sprint final. Souvenez-vous notamment Monaco qui avait pris un 6-1, quelque chose comme ça, je crois, à Lyon, une année avec Genesio. Là, les deux clubs ne sont pas en face. Je pense que Lyon ne se rattrape pas contre Nice. Comme tu l'as dit, c'est de la roue libre. Il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus rien à perdre. Donc ça, Lyon, ils prennent les 3 points. Mais je pense que Monaco gagnera contre Lens et que Monaco jouera la Ligue des Champions. Alors, comme tu le dis, il s'est passé quelque chose dans la victoire à Louis II. La finale de la Coupe de France, c'était quand même une sacrée bouillie de football côté monégasque. Mais c'est aussi là qu'on va voir, qu'on va juger la l'aune de la saison monégasque et notamment le travail de Kovac. Et je ne serais pas étonné qu'il ait les armes pour les remettre d'aplomb sur ce dernier match. On sait que sa méthode est très particulière, qu'il sait comment gérer un groupe sur ça. Et je pense que là, le problème de Monaco, il est peut-être un peu physique, mais il va être aussi dans les têtes. Donc je ne serais pas étonné qu'il arrive à les remettre d'aplomb. Comme on a dit aussi, Lens, c'est pas non plus la folie sur la fin de la saison. Donc moi,
qu'ils sont dans une spirale pas terrible.
Mais je pense que ça sera pas, il y aura pas un écart monstrueux sur le Lens Monaco. Mais je pense bien Monaco passer Lyon, enfin pas passer Lyon, mais rester devant Lyon pour un petit point d'ici la fin de la saison et jouer donc la Ligue des Champions l'année prochaine. Reste.
Ah oui, là on a bien rigolé, Maxime, mais là il reste le gros morceau. Qui, alors, si on nous avait dit qu'à 48 heures de la fin du championnat, on se poserait la question qui sera champion de France. Déjà, ça, c'est une dinguerie, c'est une folie. Alors, Maxime.
Et surtout que Paris serait dans le siège du passager.
Exactement, exactement. Alors, Maxime, il y a un point d'écart entre Lille et le Paris Saint-Germain. Il reste 90 minutes à jouer. Qui sera champion de France?
Bonne question. Le match de Saint-Étienne a instillé un très, très gros doute pour les Lillois. Parce que Saint-Etienne, on a senti que ce soir-là, il manquait quelque chose et qu'ils étaient enfin, entre guillemets, j'allais dire enfin, rattrapés par la peur de gagner. J'ai trouvé que pendant tout le sprint final et même avant, Galtier a parfaitement géré tout ça. Il ne s'est jamais caché pour le titre, il n'a jamais fait le discours habituel, vous savez, non, mais nous, on vise la Ligue des Champions, on avance. Non, dès le début, il a dit, bah oui, on est à cette position-là, on y va, on va essayer de l'avoir. On a senti qu'il s'était passé aussi quelque chose sur la victoire face à Lyon. Et puis, on a senti la semaine dernière que Lille commençait petit à petit à être rongé, non pas par le doute, mais la peur de gagner, vous savez, le petit bras, quand on commence à se dire que chaque pas, chaque coup de pied dans le ballon aurait des conséquences énormes sur la fin de saison. Est-ce que Lille sera champion de France? Je pense que Lille sera champion de France, mais je pense aussi qu'ils ne vont pas passer une soirée d'enfer à Angers, parce que déjà, Angers les a battus au match aller, il faut le rappeler, 2-1. Lille n'est pas toujours à l'aise face aux petits du championnat. C'était un peu le paradoxe de cette équipe lilloise cette année, qui se débrouille bien contre les gros, mais qui a plus de mal contre les petits. Donc, je serais vraiment pas étonné que ça se joue très peu. Récemment, Monaco a gagné de justesse à Angers. Angers, c'est pas une équipe facile à manier. Alors, vous allez me dire, elle a plus rien à gagner. Sauf que c'est la fin de Stéphane Moulin à Angers. Stéphane Moulin à Angers, il a marqué le club. C'est pas anodin. Et je pense que lui, comme il a dit, il a pas envie de jouer les arbitres. Donc, il va jouer le coup, sinon à fond, qu'il va jouer le coup très correctement. Et quelle plus belle sortie que d'accrocher l'équipe qui était en route pour le titre. Mais une chose est sûre, je pense que Lille peut le faire, mais que ça va se jouer à pas grand chose. Il y a un autre truc qui va aussi dans l'argument et du côté de Lille, c'est que c'est une équipe qui est plutôt à l'aise à l'extérieur. À domicile, parfois, ça patine un peu, mais à l'extérieur, ça marche mieux. C'est d'ailleurs la meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Je les vois bien gagner 1-0 à Angers. Donc je pense que ce sera suspense absolu jusqu'à la 92, 93e, 94e. Je pense pas qu'ils vont être à l'aise. Autant que Paris, je pense que ça va faire le job à Brest, mais qu'ils vont avoir du mal et qu'il va falloir s'accrocher jusqu'au bout.
Alors, on n'est pas d'accord, Maxime. Moi, je vois Paris brandir le trophée à la dernière minute, un peu comme Lyon qui double Monaco à la dernière seconde. Je vois Paris aussi doubler Lille parce qu'il y a plein de petits indices qui nous disent que il faut se souvenir de Angers-Monaco avec ce but de Ben Yedder. Je crois que c'est à la 78e minute, mais avant Monaco, mais en bave à Angers, et tout le monde en bave. C'est toujours compliqué, Angers, c'est une des équipes les plus chiantes à jouer. Donc, quand il y a ça déjà, qu'en plus, on ajoute la fameuse tension de cette dernière journée où, on le rappelle, Lille n'est pas une équipe programmée pour être championne de France. Et tu l'as dit, il y a les démons qui ont ressurgi. Moi, j'ai regardé en entier Lille-Saint-Etienne la semaine dernière. Lille, ils ont deux occasions et demie, dont une dernière dernières minutes où Étienne Green la met sur le poteau. Il y a très, 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 très peu d'occasions. Lille n'est pas à l'aise face à ces équipes-là. Lille ne sera pas à l'aise face à Angers. Et moi, je les vois se crisper, les Lillois. Et alors, Brest-Paris, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. On l'a dit tout à l'heure quand on parlait de la passe de barragiste, 2x3-0, Brest, c'est pas le genre d'équipe qui enquiquine le Paris Saint-Germain. Angers, c'est typiquement le genre d'équipe qui enquiquine Lille. Au-delà de l'extérieur, domicile, petite équipe, surtout ce que Lille n'aime pas, c'est les équipes qui sont regroupées sur leur but. Saint-Etienne l'a très bien fait la semaine dernière. Angers, c'est un peu l'ADN du club, même si Stéphane Moulin n'aime pas qu'on résume et que Angers a effectivement un peu évolué. Mais quand même, malgré tout, prenez la défense d'Angers. On prend les quatre, plus le milieu, c'est des valeurs sûres. C'est des mecs qui toujours ont un niveau moyen hyper solide. C'est hyper dur de les mettre à défaut. C'est des joueurs qui se connaissent par cœur. Et moi, je vois Lille concéder le nul à Angers et Paris s'imposer, ce qui ferait de Paris le champion de France. Alors évidemment, forcément, ce qui est cool, Maxime, c'est qu'on aura raison. Soit toi ou moi, on aura raison. Donc, de toute façon, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir.
Après, je pense que, comme tu as dit, il y a cet ADN angevin d'être solide, etc. Mais comme c'est la dernière aussi de Moulin, peut-être qu'ils auront envie de, non pas le feu d'artifice, mais de jouer un peu, de récompenser un peu l'entraîneur qui les a accompagnés pendant tout ce temps. Mais quoi qu'il arrive, même si ça joue un peu plus, ça reste une équipe chiante à jouer, tout simplement. Et ça, plus la pression peut-être sur les jambes lilloises, ça va être compliqué. Pour se rassurer un peu, Galtier, il a dit on a fait notre parcours à l'extérieur, donc on joue à l'extérieur à la fin, c'est peut-être un des avantages.
Il a raison.
Ce qui est vrai, après, c'est de se dire aussi, est-ce qu'il va tenter de changer des choses avant la fin ? Moi, mon avis, c'est que peut-être à la marge, faire un changement ou deux dans son effectif, peut-être faire rentrer Renato Sanchez, je ne sais pas, mais je ne bougerai pas trop les lignes parce que je pense qu'il vaut mieux mourir avec ses idées. Parce que ça a été les bonnes, on va dire, toute la saison. Et je pense que ça serait la pire des choses que Lille ne soit pas champion de France avec, un coup sur la fin. Mais en tout cas, voilà, moi, mon prono, ça reste Lille. Mais en effet, c'est dû aller 70-30. Et je pense que Martin et moi travaillons dimanche soir. Et jusqu'à la 92e, 93e ou 94e, on ne sera pas sûr de quoi bien écrire sur Eurosport.fr.
Alors, si Lille est champion, Maxime, on vous laisse poser la question quand même. Est-ce que ça en ferait le champion le plus incongru, le plus inattendu, le plus fou de la dernière décennie ? On peut même aller même un petit peu plus loin. Peut-être même le champion le plus fou, le plus inattendu du siècle. On va reprendre la déclat de Kylian Mbappé qui disait « Si on perd ce titre de champion, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui l'aurons perdu, pas eux ». Qui l'auront gagné. Il a dit ça il y a une semaine, me semble-t-il, quelque chose comme ça.
C'était sur Eurosport, d'ailleurs, après la demi-finale Exactement. De Montpellier-PSG, Coupe de France. Alors, il s'est excusé derrière. Alors ça, toujours pareil, ça me fait marrer. Il manque pas de respect envers Lille. Mais on ne peut pas dire que le PSG n'a pas perdu le titre. Imaginez 8 défaites. enlever une défaite, rajouter une victoire, PSG est devant, et là on se dit, ils vont gagner à Brest, c'est terminé. Donc non, il n'a pas tort de le dire, mais ça n'empêche pas de reconnaître que Lille fait une formidable saison, que celui qui a raison, c'est celui qui ramasse justement les occasions laissées en route par le Paris Saint-Germain, et il n'y a qu'une équipe qui l'a fait à ce moment-là, c'est Lille, donc bravo à Lille, et ça n'empêche pas de penser que Paris s'est pris les pieds dans le tapis, et il faut souvent ça pour avoir une surprise. Alors moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin que de la décennie, j'ai envie de remonter 25 ans en arrière. Pourquoi 25 ans? Parce que c'est le titre d'Auxerre champion de France. Et je mettrais sur cette 25 dernières années, je mettrais 4 titres qui peuvent paraître, entre guillemets, inattendus, voire incongrus. Auxerre 96, Lens 98, Montpellier 2012 et peut-être Lille.
Monaco, 2021. Monaco 2017.
Ouais, alors Monaco 2017, voilà, tu as raison. Alors déjà, je vais évacuer les deux premiers parce qu'on est dans une période qui est à toi, à moi, à toi, à moi. Marseille est en Ligue 2, Marseille a dominé le début des années 90. Normalement, le PSG est sur un boulevard, puisque Marseille n'est plus là, et le PSG va se prendre les pieds dans le tapis, notamment face à cette équipe d'Auxerre. Et là où c'est différent, c'est que c'est pas le même football, et surtout cette équipe d'Auxerre, on savait qu'elle savait faire, c'était une demi-finaliste de Coupe d'Europe, et donc même si Paris peut s'en prendre qu'à lui-même sur la fin de saison, avec notamment un enchaînement au Parc des Princes, défaite contre Lille d'ailleurs, et match nul contre Martigues, c'était une surprise que ce soit Auxerre, mais c'était pas complètement incongru, surtout quand on voit les noms avec le recul. Plus incongru, c'est Lens, mais Lens profite en 98 d'une L1, entre guillemets, au rabais, parce que bah, y a personne dans cette Ligue 1. Et très tard dans la saison, plusieurs clubs peuvent gagner. Ce sera Lens ou Metz. Déjà, l'un des deux aura été une surprise. Et pour vous donner une idée du marasme du football français qui allait être champion du monde, Metz, au mois d'août, joue les barrages de Ligue des Champions et se fait sortir par Helsinki. Donc, ça disait un peu aussi le niveau du championnat de France. Donc, Lens avait eu raison d'être là, mais c'était pas complètement incongru au regard de ce qu'il y avait en face. Reste évidemment, Martin, la dernière décennie, où là on rentre dans la décennie, la vraie décennie PSG-QSI, et là on a donc Montpellier, Monaco, et on va imaginer que Lille est champion. Où c'est que tu mettrais Lille dans ce trio?
Pour moi, Lille serait le champion le plus incongru, le plus inattendu du siècle au moins, parce que pour moi c'est encore plus inattendu que Montpellier, encore plus inattendu que Monaco. En 2018, Lille, ils sont 17e quand même, hein, quand Galtier les prend. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors oui, ils ont fait une campagne de Ligue des Champions, mais on voit comment ça s'est passé. Cette année, ils font la Ligue Europa, bon. Mais ce n'est pas une équipe déjà armée pour le titre, ça c'est une première chose. Qui a battu le PSG en Ligue 1 à fin de saison? Donc on l'a dit, Monaco. Mais Monaco, c'était une des plus belles générations spontanées de l'histoire. Enfin, je veux dire, Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva, même Benjamin Mendy. On peut voir où ils sont aujourd'hui. Dire tous ces mecs-là au même endroit en même temps, avec Mbappé en tête de proue qui éclot cette saison-là. Voilà, ça explique pourquoi aussi le Paris Saint-Germain, qui cette année-là termine quand même avec 87 points. Cette année, Lille, au mieux, ils sont champions avec 83 points. Donc voilà, Paris avait fait. Donc pour moi, ce Monaco-là, c'était un peu moins étonnant que le Lille d'aujourd'hui. Quant à Montpellier, donc c'était en 2012. Mais les deux stars de Paris à l'époque, c'était Gamero et Pastore. C'était pas Neymar et Mbappé. L'attaque, en devant, il y avait qui? Il y avait Louis Ndoula. Alors oui, il y avait un peu Jérémy Ménez, mais c'était un pari incomparable avec le pari d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un pari qui fait partie des meilleures équipes d'Europe, de toute façon, finalise avec des champions l'an dernier, demi-finaliste cette année, qui sort le Bayern, etc. Battre ce pari-là en 2021 n'a rien à voir avec le battre en 2012. On était au balbutiement de l'ère qatari. Il y avait eu un gros investissement, c'était Pastore. Quand on voit ce que ça a donné Pastore, voilà, il n'y avait pas Navas dans les buts. Et devant, il n'y avait pas Icardi, Di Maria et compagnie. Donc pour moi, l'exploit est beaucoup plus grand aujourd'hui de Lille, beaucoup plus inattendu donc que celui de Montpellier ou celui de Monaco. Lille, c'est un gros collectif. Est-ce qu'on a un joueur qui va faire la carrière d'un Mbappé, par exemple, ou d'un Bernardo Silva? Voilà, ça me paraît très étonnant. Le meilleur joueur de cette équipe-là, c'est un attaquant de 35 ans qui, l'an passé, joue au Beşiktaş. Et si on nous avait dit que c'était le meilleur attaquant, le meilleur joueur de la saison de Ligue 1, personne ne l'aurait cru. Les seuls arguments de Lille, c'était Campos, qui avait déjà prouvé avec Monaco, et Galtier, qui reste quand même un entraîneur top de Ligue 1. Mais bah, pour moi, c'était complètement inimaginable, impensable de voir Lille champion de France cette année.
Alors oui, c'était inimaginable, je suis d'accord avec toi. Monaco, je l'ai mis à part 2017, parce que comme tu l'as dit, voilà, il n'y a qu'à voir l'équipe qu'il y avait sur le terrain. Et le seul regret que j'ai avec cette équipe de Monaco, c'est qu'elle se soit auto-détruite, on va dire, au bout d'un an. Parce que ce qui manque terriblement à la Ligue 1, c'est évidemment un duel au long terme avec le Paris Saint-Germain. Évidemment, il a été tué dans l'œuf, alors que, comme tu l'as dit, c'est une génération complètement dingue. Et évidemment, Mbappé en pointe, c'était formidable. Moi, pour moi, je mets quand même Montpellier. Pourquoi? Parce que Montpellier, comme tu l'as dit, ce n'est pas le même PSG, je suis d'accord. Mais Lille, c'est quand même une équipe qui est bâtie pour aller haut. C'est une équipe qui n'est pas faite pour gagner le championnat à la base, mais qui est faite pour aller chatouiller les places européennes, voire la Ligue des Champions quand ça rigole. Donc déjà, c'est une différence avec Montpellier qui n'est tout sauf une équipe qui doit normalement être aussi haut et même être champion de France. Montpellier, le dernier titre, c'est 1990. Avant ça, c'est une Coupe de France. C'est un club familial, c'est Loulou Nicolin, c'est Michel Mézy, c'est Robert Nouzaret, c'est tout ça. C'est un club de l'ancien temps presque. C'est une espèce de Auxerre un peu bon, j'allais dire plus durable sur la durée, même si Auxerre a gagné, a resté longtemps en Ligue 1 et a fait beaucoup plus que Montpellier. Mais il y a ça. Et finalement, quand on se retourne sur l'effectif de Montpellier, tu as raison de dire que le PSG n'était pas au niveau du PSG d'aujourd'hui. Mais je pense que si tu fais un Lille 2021 contre un Montpellier 2012, ah oui, je suis pas loin de penser qu'il n'y a pas photo, parce que quel est le seul joueur qui a réussi une très grosse carrière derrière? C'est celui qui était devant, c'était Olivier Giroud. Après, c'est un formidable collectif, c'est une aventure humaine exceptionnelle, mais c'est une énorme anomalie. L'anomalie cette année, c'est pas Lille au fond, on l'a dit tout à l'heure, c'est le Paris Saint-Germain et ses 8 défaites. Et Lille ne fait que faire une excellente saison et aussi profiter de ça. Je pense que le Montpellier avait ce côté beaucoup plus. Parce que de toute façon, c'est sans lendemain. Par exemple, Lille, je ne suis pas certain que l'année prochaine, on ne les voit pas dans les quatre premiers non plus. Montpellier, ça a été un one-shot exceptionnel. L'histoire d'un groupe, l'histoire d'un entraîneur avec René Girard, qui s'est auto-détruit derrière. Donc moi, je mets quand même Montpellier devant parce qu'il y a cette histoire qui est aussi complètement. La différence pour moi avec Lille, Monaco et Montpellier, c'est que c'est une histoire anachronique. Lille, ce n'est pas totalement anachronique.
On passe au deuxième sujet. Maxime, on a fait le
Ouais.
tour de la Ligue 1. Alors, petit conseil, ne suivez pas nos pronostics. Ça, c'est une première chose, évidemment, surtout ceux de
Ah
Maxime.
oui, non, mais là, je confirme.
Et on va passer au deuxième sujet. Et on va parler droite. Oui, tu veux dire quelque
Non,
chose?
non, j'allais dire, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais ça va vite revenir sur le tapis. C'est évidemment les droits TV. Ça a été quand même le feuilleton complètement délirant du début de saison, de la moitié de saison. Mediapro, Téléfoot, out, Canal+, qui a tout récupéré, 330 millions. Et il se trouve que, bah, à la fin de la saison, c'est terminé ce deal. C'est-à-dire, à part les deux matchs de Canal+, le deal est terminé. Et la Ligue va bien devoir remettre ses droits en vente et trouver un acheteur. Et pour le moment, bah, ça ne se presse pas au portillon. Donc, qu'est-ce que
Non,
fait
non.
la Ligue? Qu'est-ce que propose la Ligue? Et qu'est-ce que acceptent pour l'instant les présidents de club? C'est de dire, bah, il n'y a personne pour acheter les 8 matchs restants. C'est-à-dire que l'affiche 1 et 3, c'est Canal+, ça ne bouge pas. Eh ben, on va créer notre chaîne. On va créer notre chaîne, le C'est Foot de 2021. Chaîne de la Ligue qui diffuserait 8 matchs sur 10, dont le deuxième choix. Donc, assurément, l'occasion d'avoir ou le PSG ou l'Olympique de Marseille, ce qui est important évidemment pour les audiences. Lancer une chaîne à 10 ou 11 euros par mois, 100% Ligue 1. Est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de bluff, Martin?
Moi, je pense pour un coup de bluff, ce serait un aveu de faiblesse terrible et énorme de la Ligue 1. Personne n'en veut. Bon, ben, on va le faire nous-mêmes. Bon, ok, très bien. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est un moyen d'agiter un moyen de faire pression, en fait, sur les autres diffuseurs, de leur dire, écoutez, si vous venez pas, c'est pas grave, on n'a pas besoin de vous, on a une solution de secours. C'est une façon de faire un peu monter les enchères sans le dire. Pour moi, c'est la bouée de sauvetage du foot français, quoi. C'est-à-dire, ils disent, bon, OK, personne ne veut de nous, on le fait nous-mêmes. Mais ça me paraît tellement incroyable que la LFP lance sa propre chaîne. Ça voudrait dire, si nos calculs, enfin, on va dire qu'ils font, Canal+, tu l'as dit, c'est 380 millions d'euros.
Alors,
Ce serait 4.
330, il ira à 380 millions.
Voilà, 380 millions d'euros, plus donc cette chaîne-là, la Ligue parierait sur quoi? 2 millions d'abonnements?
Ouais.
C'est ça, à 10 euros, donc ça fait 200 millions, on va dire. Donc ça ferait 380 plus 200 millions, ça ferait, allez, on va dire grosso modo, 600 millions d'euros pour les droits télé, mais il faudrait y soustraire les droits de production, puisque c'est la Ligue, hein, qui créerait cette chaîne. Donc il faut mettre des moyens dedans, il faut payer les salaires des journalistes, il faut, voilà. Et donc ça coûterait cher. Donc, ça ferait beaucoup moins de 600 millions. Il faut savoir que la Ligue 1 n'a plus coûté 600 millions depuis 2005. Ça fait 16 ans, Maxime, que le football professionnel français n'a pas coûté aussi peu cher. Moi, je pense que c'est un énorme coup de bluff. Je ne peux pas croire que les présidents de clubs français se résignent à ce point-là.
Non, parce que là, entre eux avoir le milliard, le fameux milliard aux alouettes, comme ils ont eu avec Mediapro, et retomber à 6 millions, ça fait une différence. En gros…
600, pas 6.
6 millions, oui, 600 millions. Non, mais c'est lapsus. oui, ça fait quand même une sacrée différence. Et aujourd'hui, c'est un recul incroyable, parce que comme tu l'as dit, c'est le dernier appel d'offres de 2004 à ce prix-là. C'est-à-dire que là, c'est une Ligue 1. Ben là, c'est le rabais absolu. Et est-ce que c'est un coup de génie? Est-ce que c'est un coup de bluff? En tout cas, ce n'est pas un coup de génie, ça c'est assuré, parce que là, je ne vois vraiment pas d'issue. Je ne vois pas comment les clubs qui… Souvenez-vous, quand Mediapro a mis la clé sous la porte, le président de Reims, notamment, disait « Oh non, non, mais on va se mettre d'accord, 800 millions, c'est bien, etc. » Donc oui, je pense que les clubs espèrent quelque chose autour de 800 millions. 600 millions, c'est un échec absolu. Et puis, comme tu as dit, les 600 millions, c'est lié aux abonnements. Et il faut se poser la question du prix. Alors, Mediapro, c'était 25 euros pour la chaîne Téléfoot. C'était évidemment excessivement cher. Mais je vais être très honnête, 10 ou 11 euros par mois pour de la Ligue 1 seulement, ça reste cher.
Et sans le premier choix. Sans le premier choix.
Et sans le premier choix.
Donc, sans PSG Marseille, sans PSG Lyon, sans Lyon Marseille, sans toutes ces affiches-là, sans le derby, sans doute aussi.
Non, mais c'est très cher dans le sens où il n'y aurait que ça. Donc, et puis, ce n'est pas une chaîne 24-24 déjà. Puis, qu'est-ce que vous allez regarder dans la semaine s'il n'y a que ça. Pour vous donner… Alors, je ne sais plus exactement le prix de lancement à l'époque de Bein Sport, mais on devait être autour de 12 euros, je crois, le lancement. Et vous aviez beaucoup plus de sport et beaucoup plus de football. Et autre chose que de la Ligue 1, voilà. Moi, ce qui m'étonne un peu là-dedans, dans cette histoire, c'est que je ne suis même pas sûr que… Alors, on sait que Bein traîne des pieds, mais… Jusqu'à quel point ils vont traîner des pieds, Bein? Parce qu'il faut rappeler quand même, alors moi ça ne m'enchante pas de savoir que c'est la chaîne qui est alliée à un club de football en France, parce que je trouve qu'il y a quand même un petit mélange des genres, mais n'empêche que justement, Nasser Al-Khelaïfi, il n'y a peut-être pas intérêt à ce que la Ligue 1 se vende à 3 francs 6 sous, parce que c'est aussi les ronds qui rentrent au Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain a d'autres rentrées d'argent, notamment la Ligue des Champions, qui va lui rapporter quelque chose comme 120 millions d'euros. Aujourd'hui, je pense que ce qui rapporte au PSG la notoriété de la Ligue 1, le titre de champion et toutes ces choses-là, c'est pas peanuts. Donc, je serais vraiment étonné que cette chaîne se lance. Et surtout, si elle se lance, 2 millions d'abonnés, j'ai quand même de gros doutes au-dessus, même à 10 ou 11 euros. C'est pas anodin comme somme, surtout quand il n'y a pas tout le paquet de Ligue 1 et qu'il manque la première affiche, comme tu as dit, parce que là, tu es sûr de ne pas avoir, tu l'as dit, le PSG-OL, le PSG-Marseille, OL Saint-Etienne, tout ça, vous ne les aurez pas. Donc j'avoue, je pense que c'est un coup de bluff. Et puis, il faut penser aussi au timing. Ça arrive maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas encore les droits en vente. La saison va se terminer. Donc, c'est un peu, ça ressemble un peu, vous savez, quand vous lâchez une fuite, hop, vous lâchez ça pour voir comment ça va réagir. Mais je serais vraiment étonné que la Ligue se résigne à ça. Et surtout, les clubs aussi. Parce que là, 600 millions, c'est… Là, le mercato, ça va être une boucherie.
Puis au-delà de ça, vous vendez vos droits, personne ne les veut. Donc, c'est ce que ça signifie aussi. Ouais. Ça signifie que vous les faites vous-même.
Non, mais… Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, là, c'est déjà le découlement logique de toute cette cavalcade vers le milliard qui était complètement surdimensionné. Mais regardez en Angleterre ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé un accord, resté au même prix, etc. On sait que ça ne va pas augmenter les droits TV là, actuellement, parce que évidemment parce qu'il y a le Covid, etc. Mais là, une telle décote, ce serait complètement dingue, parce que vous ne revenez pas à la somme pré-Covid ou ancien droits TV. Là, c'est une décote absolue, quasiment 20-25%.
Enfin, c'est complètement dingue. De Mediapro à la chaîne de la LFP, c'est… En un an, c'est un cataclysme sidéral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus bas. On ne peut pas aller plus bas que ça. Tu passes de 1 milliard à la chaîne de la LFP. C'est juste délirant.
Et puis voilà le message que tu envoies. Parce qu'il y a des chaînes, par exemple, il y a des sports, les sports américains ont ce qu'on appelle les League Pass. La NBA a son League Pass. Vous pouvez voir tous les matchs. Mais la NBA, à côté, vend tous ses droits aux chaînes nationales, aux chaînes régionales aux États-Unis. Il y a un marché. C'est juste un truc en plus qui coûte assez cher pour le coup, mais qui est très bien fait. Là, on a un peu peur que ce soit un peu la chaîne lancée de briques et de broc en plus, parce que pour l'instant, je pense que la Ligue n'a rien lancé, même au niveau de la production. Si vous avez une chaîne un peu cheap, ça n'aide pas non plus à donner l'image que vous voulez donner de votre produit. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est pas bien parti.
Allez, on termine avec un sujet mercato, un sujet Lionel Messi. Messi ne jouera pas le dernier match du FC Barcelone cette saison. Match qui aura lieu ce samedi. Et il a même été exempté d'entraînement. Il a pu partir en vacances un peu plus tôt. Et la question qu'on peut se poser assez légitimement, puisque Aujourd'hui, Lionel Messi n'a plus de contrat. Du moins, il est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin, mais il est donc exempté du dernier match du Barça. Maxime, reverra-t-on un jour Lionel Messi, soit le plus grand joueur de l'histoire du FC Barcelone, sous le maillot Blaugrana?
Moi, je pense que oui, mais on ne va pas le savoir tout de suite. Comme tu l'as dit, il a été exempté du dernier match de la saison. Il est sous contrat jusqu'au 30 juin. Je ne serais même pas étonné que le 1er juillet, il ne soit toujours sous aucun contrat. Il y a la Copa América. Et puis, de toute façon, entre guillemets, il s'en fout un peu de ne pas avoir son contrat au 1er juillet. Ça va ressembler un peu, je reviens au sport américain, la free agency, le joueur est complètement libre. Bah, il va laisser les clubs venir à lui et surenchérir. Qu'est-ce qui ferait qu'il resterait au Barça? Je pense que Laporta va lui mettre sur un plateau d'argent ce qu'il veut. Alors, peut-être pas dans des conditions salariales telles qu'il a aujourd'hui, parce que le club est endetté à plus d'1 milliard d'euros et que c'est plus possible, mais lui donner d'autres garanties. Il y a eu la conférence de presse de Ronald Koeman qui s'est déroulée vendredi après-midi, où Koeman, ça ressemblait quand même déjà à un bilan de saison, oui, mais aussi un bilan de sa carrière au FC Barcelone en tant qu'entraîneur. Et il a quand même eu cette phrase de dire « Je ne me suis pas senti beaucoup soutenu sur la fin de saison par le club ». Quand vous dites ça, vous en dites long et c'est assez compliqué de continuer comme ça. Moi, je pense que le plan du FC Barcelone, c'est le coup de balai, de mettre tout ça sous le tapis et peut-être de faire revenir, ou même venir en tant qu'entraîneur, un certain Xavi. Voilà. C'est un risque. Est-ce que Messi est prêt à continuer et même terminer sa carrière avec un entraîneur jeune qui n'a pas d'expérience hormis au Qatar? C'est une question, mais c'est Xavi. Et c'est peut-être la trace que Messi laisserait dans ce club en repartant sur une dernière conquête, peut-être avec une équipe rajeunie, peut-être un nouveau Guardiola, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que sera Xavi entraîneur? On n'en sait rien. Tout le monde voyait Pirlo, le plus grand entraîneur à venir des 10 prochaines années. Résultat, c'est compliqué. Donc, c'est quand même un pari. Mais s'il y a ça, s'il y a Agüero, je pense que Messi peut rester sentimentalement parce qu'il y a aussi la trace qu'il laissera. Alors, je ne sais pas si on a tous envie, non, les supporters parisiens n'ont pas envie que Messi continue sa carrière au FC Barcelone. Mais il y a quand même ce côté de dire qu'il aura joué toute sa carrière là-bas, il partira soit en Argentine, soit en MLS, mais on l'aura vu jusqu'au bout. Et il y a ce côté excitant de la fin de carrière dans un FC Barcelone revigoré et changé, et surtout une sortie qui serait formidable. Maintenant, si l'on en croit les infos, et notamment le Parisien, son entourage, le pousserait à aller plutôt ailleurs et notamment vers le Paris Saint-Germain. Martin, toi, t'en penses quoi de ça?
Moi, je vais dire très honnêtement, au mois de janvier, je pensais qu'il allait quitter le FC Barcelone, Lionel Messi. Je pensais que ça sentait la fin de cycle. Il y a à peu près tous les signaux qui poussaient vers un départ. J'ai changé d'avis pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que la seule piste crédible pour moi, c'est celle qui mène à Manchester City. Or, je crois que c'était fin mars, la presse annonçait, Catalan notamment annonçait la fin de l'intérêt de City. Pour moi, ça a plutôt clos le débat. Le PSG, j'y crois pas du tout. Moi, le PSG, je vois plutôt ça comme
un mouchoir.
Souvent, quand même, on se sert du Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères. On connaît bien, ça s'est passé avec à peu près tout le monde, de Ramos à Cristiano Ronaldo à Lionel Messi déjà. Et voilà, c'est une façon de mettre la pression sur l'FC Barcelone. Mais je crois pas tellement à la piste parisienne. Et puis, le Barça, depuis le mois de janvier, est quand même deux, trois choses qui sont un peu améliorées. Il y a un léger mieux. Je pense à Pedri, je pense à De Jong. Il y a des vraies bases sur lesquelles construire. On n'est pas vraiment à zéro. Je vois plus un avenir à cette équipe que j'en voyais début janvier. Voilà, je vois qu'il y a une direction qui est prise, en tout cas. Et je pense que Lionel Messi n'est pas insensible à ça. Je pense que si c'était le néant total, mon raisonnement serait autre. Mais le Barça a progressé. Tu l'as dit, Agüero, c'est quand même… c'est quasiment fait. C'est quand même une piste. Je veux dire, si Agüero arrive, c'est pour jouer avec Messi. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'en dehors du terrain, comme sur le terrain, il y a beaucoup d'indices convergents qui me poussent à croire que ce n'est pas fini et que Lionel Messi restera au FC Barcelone à l'issue de cette saison. Voilà. Je suis à peu près… je ne suis pas certain de ça, mais…
Non mais après, on peut aussi prendre le constat d'un autre côté, se poser en fonction du Paris Saint-Germain, est-ce que le PSG peut accueillir Messi? Parce que là, on est en train de dire ça, mais évidemment, ce serait un Messi libre, mais il y aura une énorme prime à la signature, un salaire XXL.
C'est ça, les salaires.
Le salaire de Messi, c'est quasiment le triple de Neymar. Alors, Évidemment, la condition actuelle ferait que Messi ne viendrait pas pour le même salaire qu'au FC Barcelone, mais je serais étonné que Messi gagne moins 50 millions en venant à Paris, par exemple. 50 millions, c'est pas rien. Est-ce que Paris peut avoir Messi, Mbappé et Neymar en même temps? Bah, je ne pense pas, parce que, alors évidemment, il y a le fair play financier qui a été assoupli, mais à un moment, le fair play financier, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Le PSG a des pertes cette année, à un moment, vous ne pouvez pas creuser un puits sans fond. Et si faire venir Messi, c'est dire adieu à Mbappé, je ne suis pas certain que le jeu envahit la chandelle, parce que, ah oui, Mbappé ne va pas rester 8 ans au PSG encore, mais s'il reste ne serait-ce qu'un an ou deux ans, ça équivaudra à peu près à ce que viendrait faire Messi. Donc moi, j'irai plus sur Mbappé, je m'accrocherai plus au contrat d'Mbappé. Voilà. Après oui, évidemment, si vous avez Messi, Neymar, Mbappé sur le terrain, j'aimerais bien voir ça. Mais j'y crois pas, ça me paraît pas réaliste, ou sinon c'est un peu, au niveau des finances, assez suicidaire sur le long terme. Donc voilà, je pense que le PSG...
Après, faut pas être catégorique. Si on nous avait dit qu'on verrait Mbappé, Griezmann et Benzema sous le même maillot, on n'y aurait pas cru non plus.
Ça, oui. Ça c'est sûr. Oui. Mais ça coûte moins cher. Bah, des fois, parfois,
ah bah ça coûte rien. Donc,
cela dit, si, les excuses, ça peut coûter cher.
C'est beau, Maxime.
Mais en tout cas, au niveau financier, ça coûte moins cher. Mais comme tu as raison, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai que je serais quand même étonné d'un point de vue financier, tout simplement, parce qu'on le répète, le fair play financier est assoupli à cause du Covid. Ils ont fait, on va dire, un gros package pour pas s'arrêter là et dire vos pertes sur l'année, parce que tout le monde va avoir des pertes, surtout dans ces grands clubs-là. Mais à un moment, là, ce serait relancer la machine à perdre. Déjà que, souvenez-vous, Neymar et Mbappé, c'est un investissement ultra lourd qui a failli poser de gros problèmes au PSG. Donc là, c'est passé là. Moi, je ne pense pas qu'il y aura les trois, et je pense surtout que le débat et le sujet principal, c'est Mbappé, prolonger Mbappé.
On a fait le tour, Maxime, je crois.
Je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. On vous remercie de nous avoir suivis. On rappelle quand même qu'on peut nous suivre en intégralité sur Facebook, en podcast sur toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast, et qu'on retrouve les meilleurs moments de l'émission montés, découpés, ciselés, j'avais envie de dire, par Adrien Yo. Voilà, on remercie Adrien évidemment pour la réalisation de ce nouvel épisode. On remercie Quentin Guichard pour les visuels. On remercie Maxime Dupuis pour tout le reste.
Et Martin Mosnier.
Et qu'est-ce qu'on dit? On dit à la semaine prochaine.
On dit à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Salut.